C'est Bagarre, le format jeu de la rédac Allociné. Au cours de ce podcast façon match de boxe, notre équipe devra éliminer une proposition à chaque round. Et évidemment, à la fin, il ne pourra en rester qu'un.
Que le spectacle commence!
Est-ce que nous allons nous battre?
J'aime me battre.
Let's get ready to rumble!
Pour cette nouvelle bagarre, on a réuni les princesses Disney. Oui, oui, vous avez bien entendu, une bagarre de princesses. On va essayer d'imaginer ça là, comme sur un ring. Elles vont devoir retrousser les manches et peut-être un peu salir leur jolie robe pour sortir gagnante de ces confrontations. Quelle est la meilleure princesse de tous les Disney? On va essayer de répondre à cette question avec notre équipe et son expertise et sa mauvaise foi. Je compte sur Vincent Formica, que je salue autour de cette table.
Salut.
Laetitia Foran, salut.
Salut.
Et c'est ta première bagarre avec
Tout
nous.
Fait.
Alors, sois prête parce que Vincent est très expert en mauvaise foi.
Ah oui, la mauvaise foi, ça me connaît. On va y aller.
Et pour compléter ce tour de table, Manon Maroufi, salut.
Salut.
À la réalisation, Kéliane Sarrazin, je suis Brigitte Baronnet. Bagarre Princesse Disney, premier volet, c'est parti. Alors, j'ai sous mes yeux les noms tirés au sort, sous contrôle d'huissier, Maître Bibidi Bobidibou.
Ah.
On a la ref.
C'est beau,
j'aurais pu le faire en chanson.
Voilà. On reste dans la thématique, c'est un clin d'œil à Cendrillon.
Cendrillon.
Tout à fait.
Peut-être que Cendrillon sera parmi ces princesses Disney. Mais donc voilà, vous connaissez le principe. Pour le premier tour, on tire deux princesses et ensuite, à chaque round, il y en a une qui est dégagée. Alors Manon, tu vas lire le premier papier, Vincent le deuxième. Et puis comme d'habitude, on écoute des petits extraits.
Ok. Alors, première princesse à rentrer sur le ring, Aurore de la Belle au Bois Dormant. Je dirais que les mauvaises, quoi.
Ah ouais, ça va être un sacré match parce que ça sera contre Jasmine d'Aladin.
Oh, je sais déjà qui
gagne. Est-ce que c'est un vrai match en vrai? En vrai de vrai.
On va voir ça.
Alors.
Oui, alors que dire de La Belle au Bois Dormant? C'est une des plus vieilles princesses, je pense, en tout cas de cette liste. C'est une des plus connues aussi. Et oui, son prénom n'est pas La Belle au Bois Dormant, son prénom est Aurore. Et pour resituer un petit peu, on parle ici d'une princesse de sang, voilà, fille légitime du roi et de la reine de ce dessin animé, qui va se faire maudire dès sa naissance par Maléfique, qui a beaucoup plus de classe qu'elle. Voilà, je le dis, je le glisse au passage. Et qui, du coup, la maudit et la condamne à se faire piquer à la pointe d'une quenouille le jour de ses 16 ans et à plonger dans un profond sommeil qui durera 100 ans. Voilà, donc une vie somme toute assez banale pour une princesse. Et seul, évidemment, le baiser d'un prince charmant, un baiser d'amour véritable, pourra la sortir de ce coma. Et peut-être qu'elle en sortira, on lui souhaite en tout cas, parce que même si je ne l'aime pas, je ne suis pas méchante au point de lui souhaiter la mort. Voilà.
Ce rêve bleu, je n'y crois pas, c'est merveilleux. Pour moi, c'est fabuleux. Quand dans les cieux, nous partageons ce rêve bleu à deux.
Jasmine, c'est la princesse dans Aladdin. Donc le film du début des années 90, qui est la princesse d'Agrabah. Si je ne dis pas de bêtises, c'est bien le nom de l'endroit où les événements se passent. Et voilà, elle va vivre plein d'aventures avec Aladdin. Et déjà, à partir de là, je trouve qu'elle... à partir d'Aladdin, c'est un peu une princesse un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est une princesse qui veut sortir un peu de sa condition. Et je trouve que par rapport à Aurore, c'est déjà un peu plus intéressant.
Elle a plus de caractère, ça c'est clair.
Oui, et puis c'est une des premières princesses Disney qui désobéit vraiment et qui prend son destin en main, qui décide de sortir du palais, qui rencontre Aladdin, etc. Avant, les princesses comme Aurore, Cendrillon, etc., elles étaient un petit peu...
Niaise,
voilà, c'est ça, elle subissait les choses. Là, Jasmine va prendre un peu son destin en main, même si ça reste très balisé.
Voilà. C'est vrai que, oui, Aurore, c'est même l'archétype de la princesse. qui a subi une malédiction et qui doit attendre que cette malédiction soit levée.
Elle n'est même pas au courant de cette malédiction, en plus. Oui, mais évidemment, oui, oui, c'est la base. Mais elle n'est même pas au courant de cette malédiction, c'est qu'elle vit vraiment dans sa niaiserie. Enfin, elle vit dans sa niaiserie, dans son côté mielleux, en fait. Mais c'est même pas parce qu'elle n'a pas le choix, c'est juste, elle est née comme ça. Elle a été élevée par des fées aussi, donc je sais pas si ça aide. Et encore, les fées ont quand même un certain caractère, donc tu te demandes d'où elle tient cette passivité, elle. Je sais pas, elle a été élevée
c'est
pendant 16 ans.
C'est la représentation de la femme à l'époque.
C'est ça, qui chante avec les hiboux et les écureuils l'après-midi, parce qu'évidemment, il n'y a rien d'autre à faire dans un royaume.
Tu dois t'embêter un petit peu, en même temps, ils ont tout poussé, il n'y a rien.
Peut-être. Après, pour la défendre par rapport à Jasmine, c'est que elle ne risque pas, avec sa passivité, justement, de causer des conflits politiques. Parce qu'on se rappelle que Jasmine, au début du film, au début d'Aladin, elle fait quand même mordre un dirigeant de pays par son tigre.
Oui.
Vous la voyez venir, la guerre, là, ou pas? Donc, est-ce qu'à partir de là, Aurore est peut-être pas meilleure princesse, en tout cas dans son titre, hein. Je parle pas en tant que personnage, mais
dans
Aurore a l'air d'être meilleure princesse.
Mais
quand même.
Sur un ring, c'est Jasmine qui l'emporte.
Ah oui, bien sûr, elle la castagne sans problème, oui. Ça, c'est... avec son tigre, du coup.
Sachant que dans le conte de La Belle au bois dormant, c'est encore plus violent.
Oui, certes.
Dans les contes originaux, c'est toujours beaucoup plus violent que Disney en a fait. Mm. Donc, on va pas s'aventurer sur ce terrain-là.
Je pense qu'elle était passive quand même dans le... Oui, ce qui lui arrive est 10 fois plus horrible, mais elle reste passive. Bah, plus passive que quelqu'un dans le coma, tu peux difficilement faire pire. Donc, voilà. Donc non, là, je pense qu'il n'y a pas de débat.
Non, puis là, tu l'as cassé. Après, elle avait 16 ans, je crois, quand elle se fait piquer par une quenouille.
Oui, c'est ça. Donc, une scène absolument traumatisante, d'ailleurs. Enfin, moi, je la trouve terrifiante. La scène où elle a cette petite boule verte qui la manipule et qui la fait monter dans les escaliers jusqu'à cette quenouille. Pourquoi tu te piques? On a envie de lui dire, mais arrête,
tu touches.
Voilà, pourquoi tu touches? Qui t'a dit? Mais bon, bref. Et pour l'anecdote, elle parle tellement peu qu'elle a moins de répliques qu'Ariel dans La Petite Sirène qui perd sa voix. Voilà, les gens ont compté ses répliques et elle parle moins qu'Ariel. Bah, c'est dire à quel point elle est inexistante,
si
limite en tant que princesse.
Si elle dort tout le temps aussi.
Oui, bref.
Et la pauvre, du coup, là, c'est vraiment un chaos. Là,
ah, c'est un chaos technique. Ouais, technique. Elle a même pas eu le temps de donner son premier coup. Non, je suis désolée, mais on est tous d'accord, je pense.
Ouais, ça démarre fort, on avait promis de la castagne, mais...
Là, non, ça va venir, t'inquiète pas.
Donc, la pauvre Aurore, elle a pris cher. Hein.
Oui, elle mérite un petit peu, en vrai.
Donc, Jasmine élimine Aurore, et donc... On est parti pour un deuxième round et donc c'est toi Laetitia qui va nous révéler le nom de la prochaine princesse.
Je pioche et je tombe sur Réponse. Réponse qui est un petit peu enfermée dans sa tour d'ivoire et qui a les cheveux très très longs, qui laisse pendre ses cheveux à la tour et donc le prince parvient à monter dans sa tour pour la libérer grâce à sa longue chevelure blonde.
On écoute un petit extrait et on débat.
Ensuite je brosse et brosse ma chevelure dans cette prison où j'ai grandi. Et je me demande et demande et demande et demande où se cache la vraie vie.
Donc Réponse face à Jasmine. Est-ce que là, le duel est un peu plus équilibré, vous diriez, ou...
Alors oui, parce que déjà, il y a des similitudes un petit peu entre les deux. Elles sont toutes les deux enfermées, elles ont envie de liberté, elles ont envie de changer. Donc là, je trouve que le duel, c'est deux princesses qu'on peut vraiment opposer. Après, Réponse ne connaît pas ses parents, donc il n'y a pas vraiment l'affrontement. Il y a l'affrontement avec sa belle-mère, donc qui l'a enfermée, etc. Mais là, on a vraiment envie qu'elle la castagne, donc on dit vas-y quoi, c'est pas le sultan gentil, bedonnant, qui aime sa petite fille chérie, donc voilà. Et donc, ouais, Réponse par faire ses aventures, elle rencontre
Eugène.
Eugène, voilà, un voleur, on ne peut même pas dire un prince. Et donc, ça, je trouve ça chouette parce que je crois que c'est une des premières fois où justement on n'avait pas affaire à un prince et une princesse, où c'était le voleur et la princesse qui s'ignorent d'ailleurs, parce qu'on ne sait pas que c'est une princesse à la base, Réponse. Qui va vivre de grandes aventures et donc ouais c'est un petit peu plus c'est peut-être un petit peu moins gnangnan.
Ouais, moins gnangnan, elle reste quand même assez, enfin elle a subi combien de temps sa tour avant de vraiment se rebeller? Très longtemps,
petite,
ouais.
Hein.
Ouais, depuis qu'elle est toute petite,
ouais.
Donc
faut
on va dire
que ça pousse les cheveux, hein.
Oui, c'est ça, ouais. Déjà ouais, mais je pense qu'on est on part bien sur une moyenne de 16-17 ans d'enfermement et encore elle s'échappe que parce que Flynn/Eugène débarque dans sa vie. En soi, sinon elle aurait continué à subir. C'est ça que je reproche un petit peu à la quasi-totalité, je pense, des princesses qui sont dans cette casquette, c'est que la plupart, elles n'ont pas tant de caractère que ça. Et là, encore une fois, si on parle vraiment de personnalité et qu'on les met toutes les deux sur un ring pour de vrai, je pense que Jasmine, encore une fois, elle défonce Réponse. Mais c'est vraiment en termes de personnalité et de caractère. Parce que Réponse, tu lui enlèves sa poêle... elle fait rien de fou, mais c'est une princesse que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment attachante. Ouais, en fait, je trouve que c'est dommage parce que c'est ressorti en quelle année, en 2010, peut-être un petit peu avant, un petit peu après. Et honnêtement, je me rappelle plus.
2011-2012.
Et en fait, j'ai l'impression qu'on est revenu au code des princesses, vraiment un peu niaise, un peu mielleuse, comme on disait, des années 50-60, alors que on avait quand même eu une phase avec Jasmine, Belle et même Tiana dans La Princesse et la Grenouille, où vraiment en fait, il n'y aurait pas eu de prince, c'était pareil, elle s'en sortait toute seule. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc que j'avais beaucoup aimé avec le live action d'Aladin, c'est qu'elle a sa propre chanson où elle dit en fait, j'ai pas besoin de me marier avec un homme, je peux être sultane, je peux gérer mon pays. De toute façon, on peut difficilement faire pire que son père en termes de voilà, en termes de gestion de pays, mais j'ai trouvé ça dommage avec Réponse parce que on retrouvait la princesse un peu basique. Un peu chiante qui chante pour régler les problèmes quoi, et...
mais là elle évolue quand même un petit peu, elle évolue quand même bien dans au cœur de l'histoire. C'est aussi ça qui compte, c'est que tu peux partir d'un personnage un peu basique, un peu voilà, comme ça, qui subit, à un personnage qui petit à petit se rend compte de sa condition et qui va se rebeller contre. Par exemple là, ce qu'on a oublié de dire, c'est que sa marâtre lui prend son pouvoir qui vient de ses cheveux et qui redonne de la jeunesse. Mm. C'est pour ça qu'elle la garde enfermée, parce qu'elle veut que pour...
En vrai, on aurait tous fait pareil. Hein.
Ah, que la marâtre, tu veux dire?
Bien sûr. Regarde-moi dans les yeux, dis-moi, si t'avais un nourrisson capable de te rendre ta jeunesse éternelle, tu envisagerais pas de le kidnapper pour le garder avec toi?
Non, je ferais pas ça.
Mais si tu l'élèves comme ton enfant... Oui, ça, oui, bon,
C'est vrai que quelque part, la marâtre, elle s'occupe bien d'elle.
S'occupe bien d'elle, exactement. Enfin, je veux dire, on en a vu des marâtres dans les princesses Disney.
Allez, c'est
franchement...
la marâtre qui gagne.
Mais je veux dire, Réponse, elle a pas eu une vie horrible non plus, hein, faut pas se mentir.
En fait, après, là, ce qui est bien, c'est que la naïveté, le côté léger, c'est aussi quelque chose qu'on apprécie. Parce non. que le côté... Moi, c'est ce que j'aime.
Pardon.
Moi, j'aime...
Ah, attends, parce que... J'ai bien envie de mettre un petit gage, là, parce que je t'ai trouvé limite agressive.
Il a dit un « on » général, et je ne me suis pas senti inclus dedans, je tenais à le préciser. Voilà, c'est tout.
Non, mais c'est ce que je veux dire, c'est que le côté évolution du personnage est intéressant, au-delà de... comparé à Aurore, par exemple, c'est que le personnage a... parvient justement à évoluer, à devenir, à se prendre, à changer. Et c'est ça qui est intéressant, c'est dans un personnage. Si t'arrives, tu vois, un peu comme Rey dans Star Wars, si t'es cheaté dès le départ, en fait, tu vas pas compatir avec le personnage. Tu peux pas t'identifier aussi, parce que toi-même, on a tous une évolution. Au début,
comme les Pokémon.
Ouais.
On était tous un petit peu légers, naïfs. On est tous nés, on n'en est pas devenu, on s'endurcit avec la vie. Et je pense que c'est un peu le message que délivre Réponse.
Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est beau. Mais bon, c'est quand même Jasmine qui gagne.
Oui, non, moi j'allais dire, là, pour le coup, je vois aucune évolution. Je sais pas, j'ai vu aucune évolution, que ce soit chez l'une ou chez l'autre. Hein. Jasmine, elle a exactement le même caractère au début qu'à la fin. Et Réponse, pour moi, c'est pareil. Hein. Elle est pas...
Je pense que Jasmine, elle apprend de ses erreurs aussi.
Elle apprend peut-être de ses erreurs aussi. Ouais.
Elle affronte Jafar et tout. Elle comprend aussi plus de choses, elle devient un peu plus mature.
Peut-être, oui. Mais Réponse, j'avoue que j'ai un peu de mal à voir. Enfin,
mais après, c'est normal.
Elle est heureuse et chantante, quoi, au début et à la fin.
Jusqu'à 16 ans, c'est comme un bébé, Réponse, parce qu'elle est enfermée, elle connaît rien du monde extérieur. Mmh. Et la première chose qu'elle fait quand elle sort, elle rencontre un voleur. Donc, c'est comment tu t'apprends les choses par toi-même. Et
c'est ça, et puis je trouve qu'il y a une belle dynamique entre les deux. Bah, pareil avec Jasmine et Aladin, il y a un côté très antagoniste, et finalement, ils vont apprendre chacun des deux. Voilà.
Ah, Flynn est plus intéressant qu'Aladin, je trouve.
Alors, non, je suis pas d'accord.
Ah. Oh là 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 là. Bon, c'est pas le sujet de toute façon.
C'est pas le sujet.
C'est pas le débat. Mais non, mais ouais, non, je suis d'accord. Je pencherai plus pour Jasmine, pour l'évolution que je constate plus maintenant que tu m'en parles que celle de Réponse. Mais j'aime beaucoup Réponse. Mais pareil, est-ce qu'elle a le droit de rentrer sur le ring avec sa poêle, Réponse, ou pas?
Est-ce qu'elle peut prendre Pascal aussi?
Ouais, parce que, est-ce qu'elle peut prendre Pascal? Parce que là, une poêle et un tigre, on peut y envisager, tu vois, un équilibre.
Elle peut assommer le tigre avec sa poêle.
Ouais, d'accord. Ouais. Non, il y a un concept. Mais non, Jasmine, je suis d'accord avec Laetitia. Je pense que.
Je suis d'accord.
de Jasmine.
Non, bah moi je vais garder réponse pour l'honneur. Parce que la pauvre, de toute façon, elle ne gagnera pas.
Bah non, du coup.
Du coup, elle ne gagnera pas. Donc, moi, je vais rester sur réponse.
C'est parce que tu préfères les blondes que les brunes.
Tout à fait.
Voilà, c'est ça. T'as le droit de le dire aussi.
Tout à fait.
Et pour répondre à notre interrogation, c'était sorti le 1er décembre 2010, très précisément.
2010, hein. J'ai sorti cette date totalement au hasard, en plus. Voilà, donc ça me fait plaisir.
Puis j'en profite pour dire que tous les films dont on parle sont évidemment disponibles sur Disney+, et puis DVD, VOD. Voilà. Donc, Jasmine reste pour un tour de plus. J'ai l'impression qu'elle va, résister assez longtemps.
Ouais. Faut voir.
Ouais.
On va voir si elle va faire le poids face à sa nouvelle concurrente. Et c'est toi, Manon.
C'est moi qui pioche.
Donc, Jasmine d'Aladin.
On peut terminer le round tout de suite. Ah. Oui, parce que c'est Blanche-Neige.
Ah, oui.
Blanche-Neige, est-ce qu'on a encore besoin de la présenter?
Oh, oh là 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 là. Non mais j'ai mon meilleur ami qui va me haïr si elle écoute ce podcast parce que c'est sa princesse. Enfin, c'est... Ouais. Bah, après, elle a la position de la princesse originelle quand même. Ouais. Donc c'est quand même assez prestigieux, faut pas se mentir. C'est...
Oui, enfin, prestigieux, moi j'aurais pas trop envie d'être ce genre de princesse oui, non, qui fait tout, le ménage tout... et qui attend juste son brin charmant.
Tout à fait, oui, c'est... alors c'est une autre époque, c'est d'autres mœurs, c'est... Oui. Non mais je suis totalement d'accord, mais on peut pas lui enlever que c'est un peu la reine dans le sens où c'est elle qui a donné lieu à toutes celles qui ont suivi derrière. Rien que pour ça, faut quand même honorer Blanche-Neige, hein. N'en déplaise à tous ceux qui la critiquent et dont je fais partie. J'essaye de me rassurer autant que je peux, mais non, c'est pas possible. Enfin, dans un tournoi de princesses comme ça, on peut pas accorder plus de crédit à une femme qui passe son film à faire le ménage et à squatter une maison qui n'est pas la sienne. Enfin, ça me semble inconcevable. Mais après,
qui ensuite attend que le prince charmant vienne la sauver.
Le prince charmant qu'elle a fui au début du film, mais qui bizarrement devient son type à la fin du film. Cette scène auprès du puits où il la rejoint pendant qu'elle chante et elle se met à fuir en hurlant parce qu'elle a peur. Bah oui, un type débarque et vient chanter. Oui, ça fait peur, oui, je la comprends. C'est très actuel d'ailleurs, ça pour le coup. Toutes les femmes de 2024, je pense, réagiraient pareil. Mais à la fin, parce que monsieur... Enfin, peut-être qu'elle s'est rendue compte via ses habits qu'il était quand même un peu de la haute société. Elle s'est dit, ah, y a peut-être un truc à faire.
Il y a un gentleman qui arrive à cheval.
Ouais, peut-être que
c'est
Blanche-Neige.
Un peu plus que quelqu'un qui vient courir après toi.
C'est ça. Blanche-Neige a peut-être un côté michetot, on ne sait pas trop. Voilà, après, je ne juge pas. Bah... Mais non, mais face à Jasmine, mais c'est pas possible.
Enfin... Après, grâce à Blanche-Neige, on sait qu'il ne faut pas accepter n'importe quoi d'un inconnu. Hein
oui,
qui,
oui.
Qui accepterait aujourd'hui une pomme d'une vieille dame que tu n'as jamais vue, qui t'offre comme ça des...
Après, en soi, une vieille dame, tu te dis... Oh...
Qui ressemble à une sorcière.
Oui, oui, bon, voilà. C'est clair que...
Que l'héroïne, c'est pas la sorcière.
Peut-être, encore. De toute façon, dans tous les Disney, les méchants sont les héros, en vrai.
Mais c'est pour ça qu'après, on a eu des live-action avec les méchants qui deviennent... Enfin, ils expliquent un peu pourquoi ils deviennent méchants.
Tiens, d'ailleurs, on va avoir le live-action Blanche-Neige.
Oui, bien sûr.
C'est quand, cette année ou l'année prochaine?
C'est pas cette année, c'était décalé, ouais.
Ok, donc l'année prochaine. Ouais. Mais non, il n'y a pas de débat. Enfin, je ne sais pas. Hein.
Non,
il n'y
en avait pas de débat.
Bah, en fait,
on
va essayer de débattre un peu quand même.
Oh là là.
On va pas éliminer cette pauvre Blanche-Neige comme ça.
Alors, quels sont tes arguments?
Elle a du ménage à faire, fais vite.
Tu disais c'est la princesse originelle. Moi, je pense qu'il ne faut pas prendre Blanche-Neige à l'aune de 2024. Je pense qu'il faut la laisser dans son temps. C'est un archétype qui plaît parce que c'est des clichés qui sont encore en cours aujourd'hui et on peut s'identifier à Blanche-Neige comme on peut s'identifier aussi à Jasmine, je trouve. Et ça doit rester comme c'est parce que c'est aussi un indicateur de ce qu'était la façon dont on gérait les contes avant. On était très fidèles aussi, même si Disney a édulcoré le truc. C'est quand même quelque chose qui je trouve, qui sont un peu, pour les jeunes, qui apprennent aussi à, comme tu disais Laetitia, à se méfier des gens.
Et à faire le ménage.
Faire le ménage, mais ça tout le monde fait le ménage. Moi je veux dire, en tant qu'homme, je vais même vous dire que quand je regardais Blanche-Neige, je me disais pas Blanche-Neige est une femme, donc en fait je m'identifiais à Blanche-Neige. Je me disais, ben tiens, moi aussi, si je me retrouvais tout seul dans la forêt... j'ai trouvé qu'il y avait une maison vide, ben, évidemment j'irais me réfugier dans cette maison, et si la maison est dégueu, ben, j'essaierai de la laver. Et après, on se dit, moi aussi, j'aimerais bien être pote avec les nains qui sont cool, qui chantent et qui arrivent, et hi-ho, rentrent du boulot.
Je trouve ça terrifiant.
En fait, on s'identifie quand même à... Je pense que si je fais ce bagarre princesse Disney, c'est que je m'identifie aussi aux princesses, même si je suis un homme. En fait, il y a quelque chose d'universel, je trouve, chez Blanche-Neige. Même si, je vais choisir Jasmine parce que je la trouve... Je trouve qu'elle est...
Mieux. Il n'y a pas d'autre argument.
Je trouve qu'on peut quand même se rendre hommage à Blanche-Neige en tant qu'archétype où on peut s'identifier, où on peut rendre hommage à tout ce qu'elle a. Elle a ouvert la voie aussi à toutes à celles qui sont princesses modernes d'aujourd'hui.
C'est intéressant ce que tu dis aussi, c'est parce que c'est vrai que Disney, grâce à l'évolution des princesses, où là on a la possibilité de débattre sur l'évolution des princesses et aussi l'évolution de la femme, c'est une belle image pour voir vraiment comment la place des femmes a évolué dans la société grâce à ces films. Parce que c'est vrai que je crois que Blanche-Neige est sortie en 1941, à l'époque, les femmes avaient très peu de droits et elles n'avaient pas le droit de travailler. Donc c'était vraiment, tu restes à la maison, tu fais le ménage, etc. Donc il y avait une vraie identification. Donc quelque part, par rapport à Jasmine qui après est une princesse, se fait servir, etc. C'est pas la même époque, c'est pas le même continent, etc. Les mœurs ont évolué, mais c'est un bon indicateur de l'évolution de la place des femmes.
Et moi, ce que je souligne, c'est au niveau du design de la princesse, je crois que c'est la seule qui a une taille humainement acceptable. Vraiment, parce que les autres n'ont pas d'organes internes. Non, mais elles ont la taille tellement fine, tu te dis... Non, mais en fait, c'est ça, c'est qu'après, il y a eu un cliché, peut-être pas au niveau du comportement, mais au niveau du design des princesses. Et Blanche-Neige, elle, tu la regardes, elle a une taille décente, avec des formes, et ça reste une très belle princesse. Et je ne comprends pas qu'ils aient pas poursuivi sur cette
idée. Après, t'as Vaiana, donc.
Oui, après, il y a Vaiana, mais voilà, on est quand même 50 ans plus tard entre Blanche-Neige et Vaiana. Donc, il a fallu autant de temps pour retrouver une silhouette digne de ce nom, auquel les petites filles, et puis même nous plus âgés, on peut s'identifier.
C'est vrai qu'il y a l'archétype, et c'est très intéressant parce que ça me fait penser aussi aux princes. C'est toujours des princes, grands princes hyper beaux, et à côté, tu as toujours le sidekick rigolo, le petit gros. C'est toujours des archétypes qui sont restés...
En général, on aime bien le sidekick rigolo parce que c'est celui qu'on voit le plus. donc ça va, ils ont quand même un sacré rôle. Mais non, mais c'est vrai qu'au niveau des princesses, surtout, moi j'ai souvenir d'Aurore,
c'est la
taille de guêpe. Tu te dis, où est-ce que tu ranges tes intestins, ma grande?
Non, mais ils sont tout petits, ces intestins.
Mais voilà, c'est... manges-tu seulement? Parce qu'on...
Est-ce qu'on la voit manger?
C'est ça, est-ce qu'on la voit manger? Parce que hormis Blanche-Neige et sa pomme, on ne voit pas les princesses manger.
Elle ne mange pas parce qu'une princesse ne va jamais aux toilettes.
Exactement, suis-je bête?
Ça fait des paillettes et tout.
Donc non. Ça vomit des petits cœurs et ça fait caca des paillettes. On est dans ce monde-là. Non mais je pense que Blanche-Neige, c'est tout à son honneur d'avoir été la première et d'avoir ouvert la marche jusqu'à aujourd'hui de toute la lignée qui a suivi, mais... objectivement, elle est moins bien que Jasmine. Voilà. Mais il faudrait quelqu'un pour éliminer Jasmine, là, parce que ça fait trois rounds.
On attend les papiers.
Là, on est tous d'accord, de toute façon, je pense.
On garde Jasmine, et donc c'est la dernière concurrente de cette première partie.
Oh.
C'est toi, Vincent, qui va nous révéler son nom.
Alors, c'est parti pour... là aussi, un match qui s'annonce houleux. C'est Ariel.
Un petit extrait de La Petite Sirène.
Si l'homme marche, si l'homme court, s'il peut sur terre rêver au grand jour, comme j'aimerais, si je pouvais partir là-bas.
Alors pourquoi Ariel pourrait faire la vie dure à Jasmine?
Ariel, juste pour resituer, donc c'est dans La Petite Sirène, et pareil, Ariel a envie de voir le vaste monde. Et partir, s'émanciper de sa condition de sirène, de princesse sirène, pour avoir des jambes et parcourir le monde terrestre. Et elle va réussir à le faire sous une condition assez drastique, par la méchante Ursula qui va lui offrir des jambes en échange de sa voix, comme on en parlait tout à l'heure. C'est compliqué là aussi. C'est compliqué
parce que c'est deux princesses qui se ressemblent beaucoup. Hein.
Ouais, en termes de caractère, elles sont vraiment similaires. À part que Ariel va au bout des choses par amour d'un homme, ce qui est dommage, j'ai envie de dire, ma grande. bon, c'est pas grave.
Qui ne lui rend pas forcément très
voilà, bien. Qui ne lui rend pas son affection autant qu'il le devrait. Mais non, c'est vrai qu'en termes de caractère, de volonté de s'émanciper et de voir d'autres choses, elles sont vraiment sur la même longueur d'onde. Elles auraient pu être potes, je pense, si elles avaient grandi dans le même univers.
Elles désobéissent à leur père, à leur souverain qui est aussi bienveillant, mais qui veut garder l'ordre établi. Et elles, justement, elles veulent un peu le bousculer avec tous leurs petits sidekicks à côté aussi.
Même si, pour le coup, je trouve que le roi Triton est plus intéressant que le sultan, ouais. Qui est oui, vraiment la marionnette oui. de Jafar. Ouais. Pour le coup, Triton, il a son caractère, il impose, et puis il n'hésite pas à se sacrifier.
C'est un daddy. Non, mais quand t'as 8 ans, t'es amoureuse du prince Eric, et puis quand on a 30, t'es amoureuse de Triton. Voilà, tu te rends compte que les rôles, en fait, voilà, quand t'as 16 ans, tu comprends Ariel, t'as envie de dire, mais laisse-la tranquille, laisse-la aller voir le monde. Puis quand t'arrives toi-même à l'âge d'avoir des enfants, tu te dis, mais en fait, il a raison, écoute ton père.
Mais c'est vrai que là où Jasmine formait vraiment un duo avec Aladdin, dans La Petite Sirène, c'est vraiment Ariel au centre, et puis Eric, c'est vraiment un personnage secondaire, oui, quoi. Limite, Sébastien Ipolochon, un rôle plus intéressant que lui. Donc. Pour moi, c'est quand même Ariel qui l'emporte.
C'est intéressant. Mais oui, Ariel, le prince dans Ariel, dans La Petite Sirène, c'est aussi un archétype. Quelque chose qui le... Voilà, pour faire avancer l'intrigue. Ouais. Il n'est pas vraiment au centre.
C'est l'homme objet. Hein, pour le
coup. Oui, c'est son...
C'est manipulé par ouais. Ursula.
En plus, oui. Parce que je trouve que justement, en plus,
c'est vrai,
Ursula.
Il sert à rien, en fait.
Mais oui, en fait, il sert à rien.
Mais c'est un archétype. C'est intéressant de voir que Ursula aussi est un personnage très marquant dans La Petite Sirène, parce qu'il y a un antagonisme entre les deux personnages qui est très fort. Parce que Ursula, d'un côté aussi, on peut lui prouver des excuses. Elle est au fond de son océan, tout le monde la rejette. Donc elle veut aussi prendre un peu sa part du gâteau.
Mais surtout que quand tu regardes vraiment. À la base de La Petite Sirène, c'est qu'en fait, Ursula, c'est la tata de La Petite oui. Sirène. Donc, elle s'est fait un peu voler le royaume par Triton. Donc, effectivement, tu comprends les raisons pour lesquelles elle veut se venger et qu'elle veut réduire Triton.
Elle n'a rien, laissez-la tranquille.
Ah, c'est que le vaisseau, elle se sert d'Ariel et puis Ariel se laisse avoir avec son prince parce qu'elle a envie de partir. Et du coup, elle se fait un peu manipuler, quoi. C'est une marionnette.
Après, il y a un truc que je reproche au dessin animé. Mais qui a été corrigé dans le live action, alors que je n'aime pas le live action qui est sorti l'année dernière, mais qui a été corrigé, j'ai trouvé ça très bien, c'est qu'on a quand même toute une partie du film où Ariel n'a pas sa voix, et c'est là tout l'enjeu vis-à-vis du prince Eric, parce qu'elle ne peut pas lui dire qui elle est. Madame, on t'a vu signer le contrat de ton prénom pendant la chanson d'Ursula, on sait que tu sais écrire, donc à un moment donné, tu ne pouvais pas prendre une feuille et écrire au prince Eric que c'était toi.
C'est vrai.
Moi, c'est ça, je me dis, mais alors, soit c'est vraiment une erreur de scénario, soit elle est profondément stupide. Et là, ça m'embête parce que j'aimerais
que
bien l'avoir gagné aussi.
L'écriture des sirènes, c'est pas la même que l'écriture des humains. Bah,
alors, c'est écrit pas son nom.
Alors, en tout cas, oui. L'écriture.
Je trouve qu'elle a fait X et puis.
Non, on la voit écrire Ariel pendant la chanson. Donc, c'est nos lettres à nous en tant qu'humains. Après, peut-être que les humains de ce monde-là, dans cet univers-là, écrivent différemment. Mais moi, ça m'a frustrée. Je me suis dit, mais prends, je sais pas, un mouchoir, une serviette, écrit qui tu es.
Et
ça a été corrigé dans le live action parce qu'au lieu de signer le contrat, elle lui donne une de ses écailles. Donc voilà. Donc je me suis dit, est-ce que les gens ont eu l'intelligence de se dire, bon, là, il y a un problème dans le scénario, on va le corriger, ou est-ce qu'ils sont juste dit, ah, ça fait classe d'arracher une écaille, tu vois, c'est un peu plus symbolique.
C'est une bonne idée.
Mais voilà, en fait, moi, si c'est vraiment une erreur de scénario, ça va. Si elle est juste débile et qu'elle n'y a pas pensé, ça la met à terre face à Jasmine, ça m'embête parce que j'aime beaucoup Ariel.
Mais... Après, en termes d'impact, je trouve qu'Ariel a quand même beaucoup plus d'impact que Jasmine.
Complètement, je suis d'accord. Ouais. Et puis, en fait, Ariel, elle a son propre film, ce qui n'est pas le cas de Jasmine.
Ouais. C'est vrai.
Faut le dire aussi.
Oui, parce que c'est Aladdin qui est au centre du truc, mais si elle est marquante dans le film, c'est vrai que c'est un film centré sur lui.
Il n'y a pas eu une suite d'Aladdin avec. Centré sur Jasmine, une
sur Jafar.
Non,
j'ai pas
sur
vu
Jafar,
la suite. Okay.
Sur Jafar et même sur le père d'Aladdin. Qui n'existe pas dans le premier. Donc, Jasmine n'a vraiment pas eu son heure de gloire à aucun moment.
Ils s'en foutent de lui, mais ils ont fait un truc.
Il finira peut-être par arriver.
Oui, il aurait fallu au final.
Ouais.
Mais du coup, non, je suis d'accord. Du coup, on va tirer à Ariel.
Ben, moi aussi, d'ailleurs.
Voilà. Voilà. C'est Ariel, je l'ai.
C'est beau, cette
bien,
concordance.
Ça met un peu de suspense pour clore cette première partie de Bagarre. Donc, c'est la fin de cette première manche. Laetitia Forant, Manon Maroufi et Vincent Formica, merci.
Merci.
Ne manquez pas notre partie 2. Le grand vainqueur sera dévoilé toujours sur la chaîne podcast Allociné. Et pour être sûr de ne manquer aucun épisode, on vous invite à vous abonner à notre chaîne et à nous mettre quelques étoiles si vous avez aimé. À bientôt pour de nouveaux podcasts.
Au revoir.
Salut.
Allociné.